Ce matin, nous allons regarder ensemble le plan du passage qui est « À qui s'adresse le psalmiste ?» Je ne vois pas très bien ici, c'est un peu éloigné. « Quelles sont les requêtes du psalmiste dans ce psaume ?» La description de la vigne selon le psalmiste, l'espérance du psalmiste. Je répète, à qui s'adresse le psalmiste? Quelles sont les requêtes du psalmiste dans cette situation particulière? Comment décrit-il l'état passé et présent de la vigne du Seigneur? En fait, c'est Israël. Et quelle est son espérance? Je crois que c'est bien de survoler ainsi le psaume, on aurait pu le diviser autrement, pour voir des applications pratiques dans nos vies. Tout d'abord, le psalmiste s'adresse à Dieu comme le berger. Ça, c'était le plan. Donc, à qui s'adresse le psalmiste? Il s'adresse tout d'abord au berger d'Israël. Si vous regardez au verset 2, je ne vais pas toujours lire les versets, tout en mentionnant les versets, j'attends de vous que vous lisiez le verset dans vos Bibles. Qu'est-ce qu'un berger, si ce n'est de prendre soin des brebis? Et Dieu s'est déclaré comme le berger d'Israël. Un berger qui nourrit, qui abreuve ses brebis, qui les protège des prédateurs, qui les porte dans ses bras avec tendresse. Une relation, finalement, de père à fils. Et Dieu n'avait-il pas dit à Israël que Israël était comme un fils pour lui? Le peuple d'Israël avait besoin de retrouver son Dieu comme berger. Le croyant qui s'éloigne de Dieu oublie que Dieu est le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les brebis s'étaient égarées, s'étaient éloignées de Dieu. Nous avons besoin aussi de retourner constamment vers le bon berger et de croire que Dieu est un berger pour nous qui prend soin de nous. Souvent dans l'épreuve, nous oublions la perspective de qui est Dieu. Satan veut nous faire croire tout ce qui est faux au sujet de Dieu. C'est un menteur, c'est le père du mensonge, il nous fait croire des choses afin nous croyons des mensonges pour ne pas croire qui est vraiment Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie. C'est subtil, les ruses de Satan. Une façon de détourner l'œuvre de Satan dans notre vie, c'est de se plonger dans le cœur de Dieu et de le retrouver comme un père, comme un berger qui peut prendre soin des fibres et des choses les plus intimes au fond de notre cœur. Le psalmiste aussi s'adresse donc à Dieu comme un berger d'Israël, celui qui conduit Joseph comme un troupeau. Et cela est tiré de Genèse 49, verset 24, lorsque Jacob bénit ses fils. Et en parlant de Joseph, il dit, en le bénissant, le berger, le rocher d'Israël. Vous vous souvenez comme Joseph avait été vendu injustement, type de Jésus-Christ qui sera ensuite vendu par Judas. Joseph, par sa foi en Égypte, et grâce à la puissance de Dieu, un jour a pu sauver tout son peuple. Et si Joseph n'avait pas été conduit en Égypte et n'avait pas été devenu le second de Pharaon, tout son peuple aurait été exterminé à cause de la famine. En tout cas, il a été un libérateur pour Israël. Cela nous rappelle, et c'est ce que veut dire le psalmiste, oui, que Dieu a guidé et protégé Israël dans les moments les plus difficiles, et comme Joseph était leur berger, Dieu est encore leur berger de la même façon que Dieu a dirigé Joseph. Une autre expression ici que le psalmiste mentionne ici, il parle du fait que Dieu est assis, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Lorsque nous étudions le tabernacle dans l'Ancien Testament, les chérubins étaient placés face à face sur le tabernacle, le propitiatoire, là où Dieu se rendait propice aux enfants d'Israël parce que le sang était versé. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu était là. C'est synonyme de présence. J'aimerais vous lire l'expérience de Moïse en Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins et il parlait avec l'Éternel. C'était la place de la présence de Dieu. Israël avait besoin de retrouver la présence de Dieu. Toi qui es assis sur les chérubins, toi dont la présence est manifestée, la gloire de Dieu dans l'ancien temps, manifeste-toi encore, nous avons besoin de ta présence. Est-ce que vous avez jamais dans votre vie, ou est-ce que ce n'est presque pratiquement pas quotidiennement, qu'on a envie de dire « Seigneur, manifeste ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai soif », nous dit le cantique, de ta présence. Un deuxième aspect de cette appellation de Dieu, toi qui es sur les chérubins, ça nous fait penser au Yom Kippour, à cette fête de l'Éternel une fois par an, le jour de l'expiation, qui était le jour du grand pardon, où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. On attachait une clochette à sa robe afin de savoir s'il était toujours en vie, parce qu'il bougeait, on entendait la clochette. Que Dieu lui soit agréable et agrée cette demande de pardon pour tout le peuple, pour tous ses péchés, une fois par an, qui préfigurait bien sûr la croix de Jésus, qui par son sang nous purifie non seulement une fois par an, mais tous les jours et pour toute notre vie et éternellement. C'est extraordinaire cela. Donc un besoin de présence de Dieu et un besoin de purification. Parfois nous oublions de purifier nos anciens péchés, dit le Nouveau Testament. Nous avons besoin de retourner vers Dieu pour retrouver sa présence, sa direction, sa gloire. Comme la Shekinah dirigeait le peuple d'Israël, nous avons aussi besoin d'être pardonnés, d'être purifiés. Pour demeurer dans sa présence et retourner vers Dieu, nous avons besoin de retourner à la croix. Nous avons besoin de nous humilier, de jeûner, de prier, de retourner à Christ et de demander de nous purifier de nos péchés, afin que la puissance de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Un autre aspect aussi de Dieu que le psalmiste souligne ici, c'est le verset 4. « Ô Dieu, relève-nous !» On connaît ce mot-là, mais dans son sens ici, lorsqu'on s'adresse à Dieu dans l'Ancien Testament, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le Dieu de la création, c'est le Dieu souverain, c'est le Dieu aussi El, où on peut traduire Elohim, le Dieu au pluriel, le Dieu de la Trinité. Ce Dieu tout-puissant, en qui nous pouvons faire toute confiance. Je ne sais pas vous, mais ma femme et moi, on aime bien sortir le soir, un peu tard, on appelle ça notre promenade de santé, et on regarde les étoiles, on regarde le ciel, la campagne où nous vivons, et on trouve ça tellement beau. En même temps, ça nous humilie profondément. Qui sommes-nous ? Je me souviens d'un chanteur qui disait, quand j'étais étudiant, et le soir dans mon lit, je me sens tout petit. Eh bien, le soir, quand nous nous promenons, que nous regardons la splendeur des cieux, nous regardons un petit peu quelques étoiles qu'on peut connaître et qu'on voit le firmament, en pensant qu'on sait scientifiquement aujourd'hui qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre voie lactée, des milliards de galaxies. Oui, Dieu est ce Dieu, créateur sur la terre, qui est souverain, qui gère le monde, à qui rien n'échappe. Il voit tout, il entend tout. Il est omniscient, omniprésent. Nous avons besoin d'avoir cette vision de Dieu. Nous avons besoin aussi d'avoir la vision de l'éternel Dieu des armées. L'éternel Yahweh, celui qui est au-dessus du temps. Yahweh, ça veut dire « je suis celui qui suis », « il est celui qui l'est », celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, celui pour qui il n'y a plus de temps puisqu'il est dans une ligne d'éternité, de temps dans lequel il se promène, il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Il est Dieu. Ça veut dire qu'il connaît mon passé, il connaît mon présent, et je peux croire qu'il connaît mon avenir, qu'il a de l'espérance pour moi dans l'avenir. C'est merveilleux cela. Il est question aussi de Dieu des armées, verset 5, et l'Éternel des armées, au verset 20. Ici, ce nom composé, l'Éternel des armées, c'est proche de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, non pas dans l'étymologie du mot, mais dans le sens que Dieu est celui Tout-Puissant qui a délivré Israël dans le passé, qui a délivré Israël de tous ses ennemis, qui lui a donné une grande victoire en conquérant le pays de Canaan, en les délivrant souvent des invasions du temps de David, de Salomon et des Philistins. Dieu même avait accordé la paix à Salomon après lui avoir donné des profondes victoires, et les pays alentours craignaient Israël. C'était le moment de la gloire d'Israël, à son sommet, de sa puissance. Et c'est cette expression, l'Éternel des armées, est employée 80 fois dans le livre de Jérémie, qui est un cri de Jérémie, le prophète, envers Dieu pour faire appel à son secours, l'Éternel des armées, lui qui est tout-puissant, qui a toutes ses armées célestes, n'est-ce pas, et sur terre pour délivrer son peuple. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons nous souvenir dans les moments de détresse comment Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, nous a délivrés de Satan. Nous a délivrés de l'emprise du diable et de nos iniquités et des conséquences de nos péchés, qui est l'enfer, qui est la séparation d'avec Dieu. Nous voulons nous souvenir de l'Éternel des armées, qui est vainqueur. Parfois, nous vivons des défaites dans nos vies. On peut être tourmenté, on peut être angoissé, on peut être stressé. Le monde d'aujourd'hui nous pousse à un rythme et nous égare de prendre du temps avec Dieu. Mais pensons à lui qui nous a donné toute victoire en Christ. Ils l'ont vaincu, dit l'Apocalypse, à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Alors, quelles sont les requêtes du psalmiste? Je ne sais pas si vous avez envie de continuer à entendre un petit peu ce message. Dans le psaume 80, le psalmiste donne des requêtes ici, précises. Quelles sont ces requêtes? Et c'est peut-être des requêtes qui sont l'expression de nos propres cœurs. Je vous invite à regarder avec moi tout en lisant le psaume 80. Par exemple, verset 2, « Prête l'oreille ». Prête l'oreille. Bien sûr, ça souligne le besoin urgent d'être entendu et je dirais aussi d'être compris. Il dit aussi « Parer », verset 2, le besoin de la manifestation et intervention divine. Parfois, le chrétien, dans un désert spirituel, une sécheresse spirituelle, a tellement besoin de retrouver la fraîcheur de Dieu, de voir Dieu paraître, de voir Dieu se manifester. Au verset 3, réveille ta force, le besoin de la puissance de Dieu manifestée pour vivre la délivrance. Un chrétien éloigné de Dieu est affaibli, il a perdu la force du Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force, mais il a perdu la joie du Seigneur. Viens à notre secours, un besoin urgent exprimé ici, de l'intervention encore de Dieu. Relève-nous le besoin de restauration, de repentance. Fais briller ta face, le besoin de lumière. Le psalmiste disait, par ta lumière, je vois la lumière. Combien nous avons besoin de chasser les ténèbres de nos vies par la lumière de Dieu. Plus la lumière de Dieu nous éclaire, plus les ténèbres de nos vies sont chassées. Nous avons besoin de voir la lumière de Dieu briller en nous et nous diriger comme la Shekinah qui était la gloire de Dieu, nous donner la direction dont nous avons besoin. Nous pouvons prendre des décisions parfois qui ne sont pas la volonté de Dieu. Nous nous précipitons parce que nous ne prenons pas le temps de chercher Dieu. Nous avons besoin de revenir et Dieu de revenir vers nous. C'est pour ça que le psalmiste dit au verset 15, « Reviens donc !» Quelle expression du fond du cœur, « Reviens donc !» Besoin que Dieu intervienne, bénisse son peuple comme avant, comme Dieu a béni son peuple. Le psalmiste crie ici que la bénédiction revienne, reviens. Quand Dieu revient dans la vie du croyant, la bénédiction est là et c'est toute une différence dans la vie du croyant. Et puis verset 19, « Fais-nous revivre !» Reconnaissant que lorsqu'on est croyant, on ne peut plus être séparé d'avec Dieu, mais on peut être séparé par rapport à l'éternité, parce qu'on est sauvé éternellement, mais on peut être séparé d'une communion avec Dieu. Le câble est indestructible de notre salut, mais le fil de la communion peut être rompu. Et lorsque on dit « fais-nous revivre », c'est le sens de retrouver la vie spirituelle dans le désert spirituel que nous traversons, une vie en abondance, le besoin d'un réveil. Confessons devant Dieu que nous avons besoin d'un réveil. Un réveil personnel comme un réveil d'église, comme un réveil de groupe, de communauté, de nation. Nous avons besoin d'un réveil. C'est le cas de notre pays qui a tellement besoin d'un réveil spirituel. Comment ce réveil viendra-t-il? Prête l'oreille. Parez. Réveille ta force, viens à notre secours, relève-nous, fais briller ta face, reviens donc, fais-nous revivre. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à appliquer ici par rapport à l'histoire de l'Église en France. En tout, j'ai calculé avec les mêmes mots qu'il y a 16 expressions de requête du psalmiste envers Dieu. C'est une pression dans son cœur de supplier Dieu. Et je vous invite à chercher Dieu de tout votre cœur, même pendant cet été, s'il y a un domaine dans votre vie où il y a des choses que vous traînez, que l'on traîne, qu'on a besoin d'abandonner devant Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Recherchons la face de l'Éternel qui fasse briller sa face et chasser les ténèbres de nos vies. Nous avons besoin aussi d'exprimer de telles requêtes devant le Seigneur. Nous avons besoin d'aller vers Dieu et de croire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seul Dieu pardonne, seul Dieu renouvelle, seul Dieu sauve, Dieu seul délivre. À nous agenouiller devant la croix et à croire en Jésus comme sauveur personnel, comme Seigneur, celui qui peut tout, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans ce psaume ici, j'espère que vous êtes avec moi, dans ce psaume ici, sans entrer dans tous les détails de chaque mot, de chaque verset, le psalmiste décrit la vigne du Seigneur. Vous savez qu'Israël, dans l'Ancien Testament, est comparé à une vigne, il est comparé à un figuier, et il est comparé à un olivier. Souvent, c'est la vigne. Et vous savez, la métaphore extraordinaire que Jésus a donnée en Jean 15, « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. » Et plus tard, il dit « Vous êtes les sarments. » L'Église remplace l'Israël dans le plan de Dieu, la nouvelle alliance. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, nous dit Esaïe. Et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Dieu a chéri un plan, Judas, une vigne qu'il a arrachée d'Égypte pour planter. Ça, c'est l'état passé de cette vigne. Il l'a arrachée d'Égypte. Un commentateur dit « Dieu a arraché Israël de l'Égypte comme une vigne pour la planter dans le pays promis. Il en avait chassé les Cananéens. » Vous savez, la plantation de Dieu, c'est merveilleux quand Dieu fait une œuvre. Et c'est parfois les hommes, à cause de leur péché, qui détruisent l'œuvre de Dieu. Cette vigne, au verset 10, elle avait de la place, elle prospérait, elle s'étendait, elle était manifestement en pleine expansion. Elle était étendue en toute beauté et fierté, versets 11 et 12. Une vigne bénie qui porte du fruit en abondance. Cela fait penser à Jean 15, vous portez du fruit, vous portez encore plus de fruits, vous portez beaucoup de fruits. C'est la volonté de Dieu que le croyant porte du fruit, porte beaucoup de fruits. Et maintenant, voilà, au verset 13, l'expression dramatique du psalmiste. Pourquoi, il dit au Seigneur, pourquoi as-tu rompu ses clôtures? Elle n'est plus protégée, elle est envahie, et les ennemis ont pu envahir cette vigne. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Une nation bénie, une nation fructueuse qui devient un désert. Sans protection, verset 13, dépouillée, rongée. Voilà ce que dit un commentateur, MacDonald, au sujet de l'état présent de la vigne du Seigneur. Dieu détruisit son mur de protection et permit aux nations voisines de venir grappiller la vigne. Le sanglier et d'autres bêtes sauvages, c'est verset 14, vinrent à leur tour et la dévastèrent. Ce fut tout à tour l'Égypte, la Syrie, la Babylone et plus tard la Perse, la Grèce et Rome. En parlant du sanglier, le psalmiste écrivait sous une inspiration divine, car des siècles plus tard, Israël fut ravagé par l'armée romaine qui portait fièrement son étendard avec la représentation d'un sanglier. En tout cas, l'idée ici, c'est que les bêtes sauvages envahissent Israël. Et voilà ce que dit Jérémie. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ?» Rien n'est acquis avec le Seigneur définitivement, si ce n'est le salut, mais notre communion avec Dieu, elle demeure lorsque nous demeurons dans ses voies. Et c'est vrai aujourd'hui encore. Et plus loin, il dit quelque chose de terrible, Jérémie. Écoutez bien ce qu'il dit, versets 19 et 21 du chapitre 2. « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. » De n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Ici, c'est terrible de voir comment Dieu bénit et comment par la propre volonté d'un peuple et du cœur de l'homme, il y a éloignement de Dieu, éloignement de la bénédiction et privation de cette abondance de vie que Dieu veut donner. N'est-ce pas la même chose dans nos vies, frères et sœurs? Il suffit de laisser quelque chose dans nos vies comme un bâton dans les roues et nous trébuchons, nous tombons. Et cela amène à Dieu, n'est-ce pas, à nous priver de sa bénédiction, peut-être de sa présence. Pourtant, Dieu désire plus que nous d'être présent dans nos vies en abondance. Bien sûr qu'on peut, il nous a scellés du Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit veut nous être accordée de façon permanente. Mais reconnaissons que parfois nous attristons le Saint-Esprit, nous résistons au Saint-Esprit. voire nous éteignons le Saint-Esprit. Alors Dieu a châtié ce peuple si riche, si béni, il l'a dépouillé et l'a rendu malheureux. Et au verset 17, il est question d'une vigne brûlée par le feu, coupée. Donc une vigne extraordinairement bénie, abondante, prospère, qui devient sans protection, dépouillée, rongée, abandonnée, brûlée par le feu et coupée. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait des sarments de vigne ou des plants de vigne lorsqu'ils ne portent pas de fruits? On les coupe. Il y a le peuplier qui sert à la construction, il y a le chêne qui sert à la construction, il y a l'être qui sert à la construction, et tous les bois francs et les bois plus mous qui peuvent servir à bien des choses. Mais la vigne, le bois de la vigne ne sert plus à rien lorsqu'il ne porte pas de fruits. La seule chose qu'on en fait, c'est de brûler. Peut-être si vous mettez un steak ou quelque chose par-dessus, ça sert à quelque chose. Et c'est assez bon. C'est la seule à peu près utilité. Mais vous comprenez l'idée. C'est qu'une vigne qui ne porte plus de fruits, elle est vouée à la destruction, elle est vouée au feu. Ça me fait penser, c'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a quelque chose à retenir quand même. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est un faux sarment. Et en Jean 15, on n'a pas le temps de développer cela, c'est un faux croyant. C'est un croyant de nom qui se croit de Christ, mais qui n'est pas en Christ. Qui se croit avec Christ, mais qui n'est pas en Christ. Qui se croit pour Christ, mais qui n'est pas en Christ. Qui n'a pas la vie, la sève en lui qui coule et qui porte du fruit divin. Alors qu'est-ce qu'on fait au bout d'un certain temps quand on voit qu'il ne porte pas de fruit? On l'émonde, on le retranche et finalement on l'enlève. Parce qu'il ne porte aucun fruit, parce qu'il n'a jamais porté de fruit. C'est un faux sarment, c'est un faux cep. Parce que pas attaché comme un sarment au vrai cep qui est Jésus. Cela nous met en garde aussi, Hébreux 3:12, prenez garde au fait que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Ça ne vous est jamais arrivé de vous détourner de Dieu en tant que croyant, de vous rebeller, d'avoir un visage dur, un cœur dur devant Dieu. Un croyant loin du Seigneur est triste et malheureux. Il a perdu la joie du salut, la joie de la communion avec son Seigneur, la joie du témoignage, la joie de la communion fraternelle. Le psalmiste ici s'adresse à Dieu. C'est Dieu qui est la solution. Le psalmiste ici a un cri du cœur qui est basé sur une connaissance de Dieu, mais qui fait appel à Dieu avec toutes sortes d'expressions. Le psalmiste fait un diagnostic réel sur la vigne du Seigneur, ce qu'elle a été dans le passé, ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce serait triste si ça arrêtait comme ça sur un diagnostic du présent qui reste comme cela, sans avenir. C'est incroyable comment Dieu, dans la bouche du psalmiste, fait naître en lui l'espoir. Un espoir extraordinaire. C'est l'espérance du psalmiste ici qui est exprimée au travers de sa foi et de prophéties extraordinaires. Tout d'abord, il parle au verset 16. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Le fils ici, c'est Israël. Dieu a dit, par exemple dans une prophétie, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui est certainement aussi une application, double application de prophétie, en parlant de Jésus ensuite dans le Nouveau Testament. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Israël était le fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et un peu plus loin, le psalmiste reprend l'expression du fils, mais il ajoute un mot qui est un mot-clé pour comprendre de qui il s'agit, qui sera le véritable libérateur d'Israël. Regardez bien, que ta main soit sur l'homme de ta droite. Qui est à la droite de Dieu le Père? Sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Le Fils de l'homme est une expression clé qu'on voit dans le Nouveau Testament. Jésus est déclaré comme le Fils de l'homme. C'est Dieu incarné, il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est parfaitement homme, il a besoin de manger, il pleure, il peut être fatigué, et ainsi de suite. Jésus est le Fils de l'homme, mais parfaitement Dieu, Dieu incarné. C'est le Fils de l'homme. La véritable solution pour Israël, c'est de reconnaître en Jésus le Messie. Ça me fait penser à la prophétie de Zacharie 12, verset 10. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Un jour, tout Israël va se convertir. Un jour, Israël va se repentir après bien des épreuves qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation en particulier, ils vont crier vers Dieu. Ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé, c'était le Fils de Dieu. Alors je répandrai mon esprit, dit Dieu. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils vont reconnaître Israël, qu'ils ont percé Jésus, le Fils de Dieu, et que c'était Dieu lui-même. En Zacharie 12, verset 10. C'est l'espoir pour tout un peuple. C'est dans la mesure où Israël va retourner vers Dieu dans les temps à venir. Et aujourd'hui, où chaque juif se tourne vers Dieu pour être sauvé, que la bénédiction de Dieu revient. Le même Dieu de l'Ancien Testament est prêt à bénir chaque juif qui se convertit dans son cœur, qui accepte Jésus le Messie. Et un temps, il y aura une restauration de sa nation, qui est Israël. Alors nous avons besoin aussi, en tant que croyants, d'exercer notre foi et de croire pour retourner à Dieu, retrouver la vie, retrouver la communion avec notre Dieu, retrouver la délivrance, la victoire sur le péché, le monde, la chair et le diable. Et il y a une histoire dans le Nouveau Testament, et je termine juste avec cela avant la conclusion, il y a une histoire dans le Nouveau Testament, c'est l'enfant prodigue. On pense que l'enfant prodigue, qui est parti du père, n'est-ce pas, et de la maison, n'était pas réellement croyant, il est parti, puis il a dilapidé les biens. Mais personnellement, et beaucoup croient cela, je pense aussi, c'est un enfant de la maison, c'est un enfant de l'Alliance. Il a un père, et finalement il va dilapider tous les biens parce qu'il échange les richesses spirituelles avec le désir de vivre sa propre vie. On connaît le résultat jusqu'à ce qu'il tombe si bas qu'il demande même à Dieu de pouvoir manger la nourriture qu'il sert aux cochons. Il est tombé tellement bas, n'est-ce pas? Et là, dans son désespoir, au fond de l'abîme, il se tourne vers Dieu et il retourne vers son père. Et Dieu le rétablit, enfin Dieu qui typifie le père. Dieu, le père qui typifie Dieu, le rétablit. L'enfant prodigue. Nous aussi, nous avons besoin de retourner vers Dieu. Et peut-être que Dieu a besoin de voir des enfants prodigues dans son assemblée, revenir vers lui. Il y a certainement des degrés différents. Il n'est peut-être pas question ici de notre Église, d'un individu si bas, n'est-ce pas, qu'Israël. J'espère que non, que nous avons décrit ici au travers du psaume 80. Mais il y a peut-être des domaines dans notre vie qui ont besoin d'être rétablis. Il y a un cœur certainement qui a besoin de retourner vers Dieu. Alors comme Asaph, crions, plaidons devant Dieu. Le titre du message, c'était une plaidoyer devant Dieu pour retrouver sa faveur. Y a-t-il un domaine dans notre vie où nous avons besoin de supplier Dieu de retrouver sa faveur? Supplier Dieu pour que nous retournions devant lui, que nous soyons secourus par sa bonté, sa miséricorde, que nous revenions à la croix humblement pour être purifiés, confesser les péchés et donc être pardonnés et retrouver la pleine bénédiction de Dieu dans notre vie, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Ne soyons pas nostalgiques des moments bénis du passé, mais soyons heureux dans le moment béni d'aujourd'hui. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi ». Moi aussi, je veux connaître Dieu, je veux connaître sa bénédiction, ou je veux retourner vers Dieu. C'est Dieu qui a inspiré ce psaume pour chacun de nous. En le premier, je dis « Oui, Seigneur, je plaide, je plaide ». Est-ce qu'il y en a d'autres qui plaident la faveur de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prier un moment, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci de ta présence. Pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, peut-être avez-vous ressenti un appel de Dieu dans votre cœur. C'est seul Dieu qui peut toucher votre cœur et sa parole. Et vous dites, moi aussi, je voudrais connaître Dieu. Je voudrais connaître Jésus-Christ. Je voudrais ne pas vivre un désert spirituel, mais avoir un cœur prospère dans les choses spirituelles. Pourriez-vous lever juste la main un instant? J'aimerais prier pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui était planifié, mais si vous voulez juste lever la main un instant et dites, oui, priez pour moi, je voudrais retourner vers Dieu. Peut-être connaître Dieu. Alors levez la main courageusement, personne ne vous regarde, c'est juste entre vous et le Seigneur. Oui, je la vois, je la vois. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous voulez dire, oui, je la vois, je la vois. Y a-t-il quelqu'un qui dit, mais priez pour moi, je voudrais, j'ai soif de Dieu, j'ai besoin d'être restauré, de revenir vers Dieu. Moi, je suis de ce nombre-là. Êtes-vous de ce nombre-là? J'ai soif de toi, Seigneur. Si Dieu vous a parlé, priez Dieu là où vous êtes. Exprimez-lui votre prière, retournez chez vous, humiliez-vous devant Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur notre Père céleste, merci d'avoir parlé à nos cœurs, à mon cœur. Je m'humilie devant toi. Je te demande, Seigneur, et je plaide pour ta faveur dans ma vie comme ta faveur envers mes frères et sœurs ici qui se sont exprimés devant toi et toi seul pour dire oui, je désire avoir la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai soif de Dieu, de sa faveur dans ma vie. Il y a tel ou tel domaine dans ma vie qui n'est pas en règle ou qui ne plaît pas à mon Dieu. Et je plaide pour que cette chose soit mise en règle devant Dieu. Ô Seigneur Jésus, toi qui as plani les sentiers de nos cœurs, œuvre en nous. Ne nous laisse pas t'abandonner ou dévier de tes voies. Conduis-nous dans les sentiers de ta justice. Éternel, fais-moi connaître si je suis sur les voies de l'éternité, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Seigneur Jésus, merci de ta patience envers chacun de nous. Merci de ta bonté exprimée à la croix et dans l'éternité aujourd'hui où tu es dans ta gloire céleste. Une Shekinah parfaite pour nous éclairer, pour nous conduire. Tu prends patience envers nous, tu es le bon berger. Tu es la gloire de Dieu assis sur les chérubins. Tu es l'éternel des armées, ta toute puissance. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es l'agent, le but et celui qui soutient la création parce que toi-même tu es Dieu. Jésus, nous t'adorons ce matin et nous te donnons toute la gloire. Visite-nous Seigneur, visite chacun de nous, visite ton Église au nom de, en ton saint nom, nous te le prions. Et nous te donnons toute la gloire Seigneur. Amen.